Je sais pas si je veux. Oui, vous m'entendez? D'accord, parce que tu as été coupée, Valérie, à un moment donné. Donc je ne sais pas exactement ce que tu disais, mais c'est pas grave. Enfin, voilà, bah je veux aussi rajouter peut-être, juste pour compléter, ce que je n'ai pas entendu de Valérie, mais je suppose que, elle a dit l'essentiel. Que j'ai aussi un ancrage dans l'orthodoxie, donc la religion orthodoxe, christianisme oriental, occidental. Et je pense que c'est aussi à ce titre et aussi un ancrage dans la méditation plus largement et dans le bouddhisme. Et donc c'est aussi à ce titre que je me permets de prendre la parole dans votre cadre, dans la mesure où, sous la rubrique santé et spiritualité, finalement, je me sens relativement peu compétente sur le terrain de la santé. C'est pas du tout mon domaine d'expertise, ni d'éthique, enfin de relation entre l'éthique et la philosophie. Donc voilà, j'aurais été assez mal placée pour prendre la parole sur ce seul versant. Voilà, je remercie Valérie de m'avoir permis de prendre la parole dans votre cadre, et comment dire, vous serez très indulgent par rapport à tout ce que je pourrais raconter concernant la dimension de la santé, puisque c'est absolument pas mon champ de compétences. Donc je vais essayer de faire quelque chose de relativement bref, de façon à ce qu'on puisse après éventuellement avoir un échange sur ce que je vais vous proposer. C'est un peu des sortes de pistes de réflexion assez ouvertes, j'espère. Je voudrais juste partir d'un constat avant d'indiquer les notions sur lesquelles je voudrais revenir. Un constat qui a été un peu déjà évoqué dans le débat qu'on a eu juste avant, qui pour moi relève d'une sorte de contradiction entre une réflexion sur le long terme qui remonte, si je ne me trompe pas, aux années 70. Où on a commencé à progressivement mettre en place des comités d'éthique, notamment dans les structures hospitalières, pour accompagner la réflexion des médecins, d'abord aux États-Unis, puis ensuite en Europe, permettre, d'une certaine manière, essayer de protéger un peu les patients par rapport à certaines difficultés qui avaient pu être rencontrées, qu'on a pu formuler en termes de dilemmes moraux. Ou de déontologie, enfin, etc. Donc il y a tout un travail de fond qui s'est mis en place et qui est maintenant assez ancien. Ça fait presque un demi-siècle que ça s'est mis en place, puis développé. Donc une implication de l'éthique dans la médecine, donc des fameuses sciences humaines dans la réflexion médicale sur le terrain, d'une part. Et puis, donc ça, c'est sur le long terme. Et puis sur le court terme, ce à quoi on a été confronté là depuis un an, effectivement, cette crise sanitaire qui nous met en état d'urgence, donc dans un autre type de rapport au temps, et qui redéclenche un geste qui va complètement à contre-courant, me semble-t-il, de cette implication humaine via l'éthique dans la médecine, avec tout ce qu'on a dit concernant un retour en force de finalement d'un discours très normatif, sanitaire et médicalisé, avec le prétexte qu'effectivement on est en situation d'urgence et donc il faut essentiellement, comme on l'a fait en France tous les soirs, compter les morts et ne pas saturer les hôpitaux, donc avec vraiment une dimension très quantitative de la gestion de cette crise, comme si on avait oublié finalement tous les réflexes qu'on a construits pourtant patiemment depuis 50 ans en mettant en place des éthiques très local et très situé finalement, et très au plus près des patients. Donc je voudrais juste démarrer par ça, parce que ça me semble être une sorte de tension assez impressionnante et un effet d'amnésie que peut-être a provoqué cette urgence sanitaire, mais qui en même temps ne la justifie pas pour autant. Et je pense que ça a quand même contribué largement. Il y a quand même beaucoup de voix qui se sont élevées en France, en tout cas durant le premier confinement, pour crier au scandale du déni de la mort que cela a suscité. Il y a eu un très bel article de Marie Dehenzel, notamment dans Le Monde, une tribune à ce propos, bon, très connue, donc voilà, elle était très visibilisée, mais beaucoup d'autres prises de parole aussi sur ce terrain. Donc une sorte d'occultation, je trouve, de tout ce qu'on pourrait appeler le soin spirituel, prenant le terme spirituel dans un sens très large sur lequel je vais revenir, de non-accompagnement des mourants. structurelle parce qu'on ne pouvait pas s'approcher d'eux, donc avec une gestion de la peur aussi qui s'est mise en place, un réflexe de peur, donc du coup qui a légitimé en fait, qui a amplifié et légitimé ce déni. Donc, alors ça a été largement amplifié, et ce déni de la mort, il est pas nouveau, et il suffit de penser par exemple à la très belle analyse de Philippe Ariès dans son essai sur l'histoire de la mort en Occident, qui date des années 70 justement déjà, pour se rendre compte qu'effectivement, peut-être que c'est humain de dénier la mort, mais là il y a eu une sorte d'effet d'amplification assez extrême et qui a alerté beaucoup de personnes en réalité dès le premier confinement. Donc je pense qu'on n'était pas... La population n'était pas forcément alignée sur les décisions des gouvernements de ce point de vue-là, dès ce moment-là. Et je pense qu'on a activé des réflexes de déni et de peur, qui sont des émotions primaires, limbiques, très réflexes, et qui en fait ont aussi pour effet de paralyser la réflexion et la prise de recul. Donc voilà, je pense qu'il y a eu un effet extrêmement violent à ce moment-là. Et donc, du coup, pour alimenter notre réflexion, donc pour peut-être prendre un peu de recul justement et sortir de ces émotions qui nous paralysent, j'avais en tête, j'ai proposé cela à Valérie, elle a trouvé ça intéressant, donc voilà, je vous soumets cette proposition. Je lui ai proposé de repartir donc des deux notions qui sont votre travail en cours, santé et spiritualité, et de proposer deux, ce que j'ai appelé des triades conceptuelles, donc triade 3, de façon à vous soumettre une sorte de petite cartographie de la relation entre santé et spiritualité, mais pensée de façon non-duelle, donc en essayant de sortir de la distinction santé-spiritualité ou de l'opposition. En général, quand on pense, on distingue et c'est très bien. Mais il est peut-être encore mieux de sortir du deux et de sortir de l'opposition, de sortir du face-à-face ou de la dimension frontale. Et donc l'idée, c'est justement de pas forcément raisonner sur cette opposition. Comme s'il y avait d'un côté le front de la santé qui serait justement le front de la dimension médicale, objective, objectivante, quantitative d'un côté, et puis le front de la spiritualité qui serait le front contraire de la prise en compte de la personne, de la dimension subjective, de la qualité, etc. Évidemment, c'est un peu comme ça qu'on a tendance à polariser les choses spontanément, et c'est pas faux, mais c'est sans doute pas suffisant, et donc c'est un peu le geste cartésien Descartes, de base, qui dit voilà, il faut distinguer, il faut analyser, et c'est pas faux encore une fois, mais il me semble qu'on pense mieux en articulant et en faisant émerger des choses plus complexes, en changeant de plan, donc en mettant en avant une sorte de logique de la complexité qui n'est pas nouvelle non plus d'ailleurs, puisqu'il suffit de se référer par exemple aux États-Unis, à l'école de Palo Alto, à la systémie, qui pense des modèles relationnels et pas justement fondés sur des oppositions. Des gens comme Václavic ou Bateson, par exemple, ont été vraiment à l'origine de ce genre de pensée plus complexe. Donc c'est un peu dans cet arrière-plan-là que je voudrais me situer. Et donc proposer ces deux triades conceptuelles. Donc j'indique là, comme ça, pour commencer, et puis je vais essayer de les détailler un tout petit peu, dire ce que je mets dessous. En mettant en série, finalement, la santé, la guérison et le soin. D'un côté. Donc la première triade, ce serait santé, guérison, soin. Et puis la deuxième triade, ce serait spiritualité, religion, philosophie. Spiritualité, religion, philosophie. Et donc ce que je voudrais essayer de faire, c'est essayer d'ouvrir la distinction première pour la mettre en perspective, lui donner une sorte de volumétrie. Voir comment on peut repenser les choses autrement à partir de là. Donc, rapidement, pour laisser de la place à la discussion. Donc, la première triade, santé, guérison, soin, elle nous confronte avec un premier schéma. On pourrait dire que quand on pense santé, évidemment, on a immédiatement en tête l'opposé, la maladie. On raisonne dans cette distinction, dans cette, ce positif-négatif. Et puis, si la maladie apparaît, eh bien, on va chercher la solution et on va chercher la guérison. Donc, on a une sorte de schéma un peu linéaire qui est la santé, c'est l'état de base, idéal. La maladie, c'est un moment qui nous tombe dessus. Tant qu'on n'est pas malade, finalement, on n'y pense pas. Et puis, quand on tombe malade, là, évidemment, ça devient réel. On connaît tous ça, hein. Que cette maladie soit locale ou plus importante, enfin, quel que soit le degré. Et puis, forcément, on va chercher une solution, on va chercher à guérir. Donc, en fait, c'est un mécanisme très spontané, très quotidien, très, très courant, qu'on connaît tous, et qui repose, à mon avis, sur un concept de la santé. Et peut-être, alors vous me corrigerez, Antoine, hein, si je vais trop loin, mais qui repose quand même sur une définition de la santé qui est assez récente, finalement, hein, qui a été, justement, vous évoquiez l'OMS tout à l'heure, qui a été proposée par l'OMS en 48, ou peu de temps après, enfin, dans ses débuts. Donc, une définition que je reprends, que vous connaissez, bien sûr, j'imagine, hein, qui consiste à définir la santé comme un état de complet bien-être physique, mental et social. Et donc qui ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Bon, cette définition, vous la retrouverez sur Internet, elle est tout à fait connue, et qui a pour effet d'indiquer qu'en fait, chaque être humain a droit à la santé. C'est un droit, finalement. Mais ça, c'est quelque chose de très récent. Hein. Ça date de 70 ans, finalement. Alors c'est vrai qu'on est dans un contexte, sans doute, il faudrait le remettre dans le contexte, puisqu'on est juste après la Deuxième Guerre mondiale, et donc on arrive après une catastrophe majeure et on a beaucoup d'organisations et d'institutions qui vont justement chercher à sortir de ce désastre et à proposer des droits, et pour la bonne cause d'ailleurs, hein, que ce soit des droits sociaux et là en l'occurrence un droit à la santé. Donc on comprend le contexte. Mais du coup, si on a cette idée de la santé en tête, on va dire c'est très bien, c'est évidemment crucial d'avoir ce droit à la santé qui est posé là comme quelque chose, comme un droit universel justement peut-être. Du coup, on va avoir protocolariser finalement ce schéma spontané qu'on a peut-être chacun en tête. C'est-à-dire qu'on va avoir un protocole scientifique de détection des symptômes, de recherche des causes de la maladie, on va émettre un diagnostic, et puis ensuite on va mettre en place un traitement. Donc on va finalement scientifiser ce que spontanément on a tendance à faire soi-même. Quand on est malade, on va chercher à comprendre d'où ça vient, et puis ensuite on va chercher à se guérir. Donc la question qu'on peut se poser à partir de là, c'est finalement ce modèle de la santé, est-ce que c'est... Alors d'un certain point de vue, encore une fois, je dis c'est très bien, et en même temps, on peut dire aussi, au fond, c'est un peu une utopie. On peut dire c'est un idéal. Alors si c'est un idéal, ça peut être un idéal régulateur et pourquoi pas. Mais on peut aussi considérer que c'est une utopie parce qu'en réalité, qui est en bonne santé de cette façon-là, hein? Est-ce que qui que ce soit, même d'entre nous, peut dire je suis dans un état de bien-être mental, social, personnel, complet? Qui est-ce que ça concerne finalement? Donc est-ce que le fait de faire... disparaître les causes de la maladie ou les symptômes même en surface, est-ce que c'est finalement ça va être ça qui va constituer le modèle de la guérison? Donc la question finalement, c'est qu'est-ce que ça veut dire guérir? C'est quoi la guérison? Qui est-ce qui est concerné par cet idéal? Et est-ce que guérir aujourd'hui, c'est justement atteindre cet état de bien-être total? Et à ce moment-là, je pense qu'on est très peu nombreux à avoir ce être en bonne santé de ce point de vue-là. Et est-ce que donc là, moi la proposition alternative que j'ai par rapport à ça, c'est de dire si guérir ce n'est pas conquérir cet état idéal qui en fait peut être intéressant à avoir en ligne de mire, mais c'est comme la sainteté, finalement, on est très peu à l'atteindre. Est-ce que, de manière plus réaliste et plus pragmatique, finalement, et plus proche des personnes et du quotidien, on n'aurait pas intérêt à avoir un concept de guérison qui correspondrait davantage au fait d'être plus en relation avec sa maladie, donc de travailler avec sa maladie, Ça, c'est sur le versant des patients. Et puis, sur le versant des professionnels, d'être plus dans l'accompagnement des malades que dans la volonté de les guérir dans le premier sens du terme. Sachant qu'il y a peu de chances, en fait, qu'on soit guéri au sens où on aurait atteint un état de bien-être total. Et ceci est peut-être d'autant plus vrai aujourd'hui, enfin de plus en plus, puisqu'on se rend compte aussi de la multiplication de la dimension chronique des maladies. En réalité, peut-être que jusqu'à présent, ou en tout cas dans les décennies beaucoup plus... antérieurement, on avait une image de la maladie qui était très centrée quand même sur la localisation d'un problème, d'une cause, et puis on met un médicament et ça y est, c'est terminé. Et on avait même tendance à penser à la maladie mentale comme ça pendant longtemps. Et aujourd'hui, on se rend compte que beaucoup de maladies sont chroniques, c'est-à-dire en fait, elles sont là, elles sont structurelles, elles sont là sur le long terme. Et peut-être c'est très difficile justement de chercher à guérir selon cette utopie du modèle de l'EMS. Et peut-être on aurait tendance à partir de là à changer de paradigme, à se demander si, en fin de compte, alors c'est un peu exagéré dans l'autre sens, mais tendanciellement, est-ce que toute maladie n'est pas chronique ? C'est-à-dire, est-ce qu'en réalité, on n'est pas dans une société où, avec justement l'impact du stress, des burn-out et de la dimension anxiogène qui se généralise, au fond, on vit avec. Du coup, guérir, ça voudrait dire plutôt être dans le soin. Donc, c'est là que je fais intervenir le troisième terme de la triade en question. Et être dans le soin, eh bien, c'est être en relation, en conscience avec ce qu'on vit, avec, on pourrait peut-être dire, les parties malades de ce qu'on est. Il y en a toujours, finalement, qu'on les voit ou pas. Et donc, être plus en relation avec ce qui est malade en nous, sans chercher à l'éradiquer, parce que si on cherche à l'éradiquer, peut-être c'est une part de nous qu'on éradique aussi. Et donc peut-être on est en train nous-mêmes de se détruire en faisant ça. C'est un peu paradoxal comme raisonnement, mais on peut le pousser jusque-là. Et du côté du professionnel, eh bien, être plus dans une position d'accompagnement en conscience de l'être malade, de la personne. Sans chercher nécessairement à trouver les causes, parce qu'en plus parfois on ne les trouve pas de toute façon. Donc il y a quelque chose d'un petit peu illusoire aussi. À un certain niveau, hein, évidemment, jusqu'à un certain point. Ce qui, finalement, nous fait passer sur un autre plan. Donc, cette première triade, santé, guérison, soin, finalement, le soin nous fait passer sur un autre plan où, justement, on va contacter un rapport à soi et on va avoir peut-être une vision plus réaliste de ce que c'est que la santé. Dans la prise de conscience justement de l'être malade que nous sommes. Finalement, peut-être que nous sommes des sujets malades. Et c'est peut-être pas un problème en soi. C'est peut-être juste le constat d'une prise de conscience et d'une capacité à en faire quelque chose. Et finalement, à l'assumer en tant que tel. On parlait tout à l'heure, je crois que c'était Dominique Jacquemin qui parlait de la prise de conscience de la finitude. Et du fait que le fait même d'en prendre conscience, c'est déjà d'une certaine manière sortir d'un état qui est un état de non-conscience. D'où je passe maintenant à la deuxième triade, conceptuelle, donc spiritualité, religion, et j'ajoute philosophie, qu'on peut penser un peu sur le même modèle de façon analogique. En ayant en tête que santé, guérison, eh bien, c'est une sorte de tropisme immédiat, un réflexe qu'on a spontanément, qui a été amplifié par la manière très scientifique de penser justement le rapport à la guérison. Et peut-être analogiquement, c'est une analogie, donc il ne faut pas le prendre dans le contenu, enfin, c'est pas une identité de contenu, hein, mais analogiquement, en structure, on peut penser que finalement, le tropisme immédiat qu'on a quand on parle de spiritualité, c'est qu'on va mettre spontanément la spiritualité en relation avec la religion. C'est quelque chose de spontané. On parle de spiritualité, tout de suite, on va avoir en tête quelque chose qui concerne la dimension religieuse. Donc, je voudrais repartir de là en ayant un peu le même type de raisonnement et en disant, voilà, quand on parle de spiritualité, si on l'oppose à quelque chose, eh bien, on va avoir une opposition qui va émerger tout de suite, qui va être... quelque chose qui relève d'une forme de matérialisme ou d'athéisme. Et donc, si on prend conscience, imaginons pareil le parcours personnel de quelqu'un qui baigne dans un milieu dit spirituel, dans son enfance, et puis la crise d'adolescence fait émerger prise de conscience, voilà, une forme d'athéisme. Là aussi, on a tous connu ça. Hein. Certains qui ont pu être enfants de cœur ont fait une grosse crise à un moment donné en disant « Non, mais moi, ça, j'en veux plus. » C'est, voilà, c'est out, exit. Et puis, à un moment donné, dans un parcours personnel, il peut y avoir justement un retour, hein, depuis une forme d'athéisme, un retour à quelque chose qui va nous mettre en rapport à nouveau avec la religion. Donc, peut-être une vraie conversion par rapport à une foi d'enfance qui n'était pas interrogée. Donc, un mouvement, un vrai mouvement de conversion cette fois. Donc, certains vont parler de crise mystique, de crise existentielle. Et donc, on a une sorte de schéma qu'on connaît. Peut-être certains ou certaines d'entre nous, pour l'avoir expérimenté, c'est peut-être un peu moins partagé que le premier schéma que j'ai évoqué à propos de la santé, mais malgré tout, c'est quelque chose d'assez... Enfin, voilà, je ne suis pas la première à parler de ce genre de choses, enfin, c'est quelque chose qui est souvent, dont on témoigne souvent. Mais ce schéma, à mon sens, il est aussi assez linéaire, en fin de compte. Et il participe aussi, de manière plus sociale ou plus collective, de quelque chose qu'on a souvent nommé comme étant un retour du religieux dans nos sociétés aujourd'hui. Donc là, je l'ai analysé au niveau individuel, mais je pense qu'au niveau collectif, on a ce genre de phénomène aussi, et qui est, je pense, avec la crise sanitaire amplifié, enfin, avec un sentiment d'apocalypse qui est aussi généré par l'urgence climatique, enfin, de pression de fin du monde. Et donc, voilà, il y a quelque chose qui se met en place, peut-être parfois un peu à notre insu, et qui du coup va nous amener à confondre le religieux, le spirituel. Et c'est d'ailleurs souvent admis, il y a des textes qui vont exactement dans ce sens, hein, qui parlent des grandes spiritualités. Et les grandes spiritualités, finalement, c'est aussi bien les religions d'Occident que d'Orient. En fin de compte, on ne fait pas de distinction. Il y a un texte à ce titre très intéressant de Bernard Baudouin, que vous connaissez sans doute, de 2011, qui s'intitule « Les grandes spiritualités d'Asie », et qui décline en fait toutes les formes de religions, ou de, voilà, ou de, on ne sait pas trop comment les nommer, mais enfin, on va quand même les appeler des religions, la religion bouddhiste, etc. Et mais on parle aussi des grandes figures de spiritualité chrétienne. Par exemple, on parle des grands maîtres spirituels, et en ce moment-là, on décline des différentes figures de saints, en l'occurrence chrétiens, donc que ce soit Saint François, Saint Antoine, Saint Martin, Sainte Geneviève, etc. Donc il semble que, finalement, spiritualité et religion, c'est comme une sorte de continuum, de tissu commun, et qui est aussi commun d'ailleurs à l'Asie et à l'Occident, en l'occurrence là. Donc, est-ce que finalement on a quelque chose comme une identité? Parce que même si on parle de spiritualité sans Dieu, ce qui a été proposé par exemple par André Comte-Sponville et Luc Ferry dans dans un article intitulé justement « Spiritualité sans Dieu, leur ou vrai chemin » en 2011, d'une certaine manière, quand on regarde leurs propositions, on se rend compte que finalement, ils ont une entente quasiment opposée l'un et l'autre de cette dimension de spiritualité. C'est-à-dire que Comte-Sponville voit dans la spiritualité sans Dieu quelque chose qui relève d'une dimension immanente du divin, donc un divin qui se confond quasiment avec la nature. Et là, on pourrait dire que ça a un petit parfum de bouddhisme, enfin, quelque part. Alors que quelqu'un comme Luc Ferry va postuler un absolu. Il va parler spiritualité sans Dieu, mais il va avoir en tête un absolu, une transcendance. Donc eux-mêmes, ils ne sont pas d'accord tous les deux. Ils ont écrit un article ensemble, mais en réalité, ils ne sont pas d'accord. Donc c'est assez intéressant. Pour se rendre compte, ce terme de spiritualité, finalement, il est assez flou, il est assez mobile. On peut y mettre beaucoup de choses. Et qu'en fait, du coup, il génère une sorte de confusion entre spiritualité et religion, d'une part, mais aussi entre immanence et transcendance, d'autre part. Donc, des repères qu'on pourrait se dire assez fixes, en réalité, sont balayés quand on regarde, finalement, des travaux qui ont été écrits par des gens qui semblent avoir quand même un peu travaillé la question. Et donc, il me semble que, là aussi, il y a peut-être la nécessité d'un changement de plan par rapport à cette relation spiritualité-religion qui est assez confuse en fin de compte, malgré tout ce qui a pu être écrit dans l'histoire où on a vraiment cherché à faire la part des choses, et que justement l'introduction d'un troisième terme, donc le terme philosophie, aux côtés de cette distinction un peu floue et compliquée entre spiritualité et religion, peut-être ça pourrait nous permettre de clarifier un peu les choses. Alors vous allez me dire, le terme philosophie, il est très complexe aussi, et on peut entendre plein de choses sous le mot philosophie, donc est-ce que c'est vraiment source de clarification ? Je me suis moi-même posé la question quand je commençais à réfléchir à tout ça. Je me suis dit, oui, non, c'est pas si évident que ça. Et donc, du coup, je pense qu'il faut quand même avoir une option un peu précise quand on parle de philosophie et qu'on veut éclairer, finalement, la relation spiritualité-religion. On ne peut pas avoir... parler de philosophie en général. Enfin, je pense que c'est important d'avoir une idée un peu précise de ce qu'on met sous ce terme. Et du coup, en réfléchissant, je me suis dit, au fond, quel est le type de philosophie qui pourrait être intéressante pour justement changer de plan par rapport à cette distinction, confusion, identité, on ne sait pas trop, c'est un peu un magma entre religion et spiritualité. Et en réfléchissant, je me suis dit, en fait, il y a un auteur qui s'est vraiment situé sur ce terrain, et qui a vraiment cherché à proposer une sorte de synthèse, donc à prendre du champ et en même temps à inclure. C'est-à-dire que son but, ça a été vraiment d'inclure les choses, d'inclure religion et spiritualité, mais de les penser sur un autre plan. Et donc j'ai trouvé que cet auteur est vraiment intéressant. Moi, c'est un auteur que j'aime beaucoup, et donc du coup j'y ai repensé en préparant cette intervention. Cet auteur, c'est Pierre Hadot. Pierre Hadot, qui est décédé il y a une dizaine d'années, et donc qui est quelqu'un qui a beaucoup travaillé en philosophie ancienne et qui s'est beaucoup intéressé aux sagesses antiques, notamment un philosophe français, historien également, qui a beaucoup écrit sur Plotin, sur Marc Aurèle, sur Épictète, et sur ce qu'il a repris dans un de ses livres comme les exercices spirituels. Mais en fait, le texte qui me semble le plus intéressant pour notre propos, c'est un autre livre qu'il a écrit en 2003, qui s'intitule « La philosophie comme manière de vivre ». La philosophie comme manière de vivre. Et du coup, il nous propose une option concernant la philosophie qui est aux antipodes de ce qu'on aurait tendance à refuser dans la philosophie comme trop abstraite ou comme trop spéculative. Il s'oppose vraiment à cette conception de la philosophie. Et il nous propose une philosophie entendue d'abord comme une attitude, donc comme un rapport à la vie, comme une expérience vécue, et aussi comme une expérience qui est amenée à produire de la transformation, comme une expérience qui est amenée à nous faire changer. Et là, on voit l'intérêt du terme exercice dans son esprit à lui. Et le terme exercice, il le prend directement du grec askésis, donc qui signifie vraiment l'exercice au sens de la méditation, dans le sens le plus large du terme. Et je trouve que si on a en tête cette conception-là de la philosophie, eh bien, on comprend mieux, en fait, comment, d'une certaine manière, la première analogie peut être, la première triade conceptuelle peut être remise en scène, et comment, en fait, cette philosophie-là, cette philosophie pratique, cette philosophie au contact, finalement, de notre expérience, qui peut nous aider, justement, à mieux vivre, qui, comme disait Montaigne, est aussi susceptible de nous apprendre à mourir, c'est une philosophie qui nous situe dans le moment présent et qui nous permet de prendre acte de chaque instant que l'on vit et qui développe justement un type de relation à soi ou une culture de la relation à soi, ce qui nous fait largement changer de plan, disons, par rapport à cette... ce mélange, cette confusion entre religion et spiritualité, et ce débat aussi, ces polémiques permanentes entre eux, mais voilà, ça c'est de la religion, non, ça c'est de la spiritualité. Quel est le noyau commun, en fait ? La question qui peut être intéressante, c'est finalement, c'est quoi le noyau commun ? Et il me semble que Pierre Hadot nous propose une réponse intéressante, assez minimale, très sobre, mais qui justement tient à, un rapport à soi en conscience. Être en relation avec soi-même en conscience et développer finalement cette relation à soi-même via ce que lui appelle des exercices, mais ça peut être d'autres types de pratiques, en tout cas avoir un projet de transformation par rapport à cette relation à soi. Et il me semble que c'est très intéressant d'avoir cet éclairage par la philosophie pensée comme ça, parce que ça permet de la projeter justement sur la première triade et sur ce changement de plan que j'indiquais avec le passage de la guérison aux soins, dans la mesure où si on a en tête un rapport à soi dans le soin, on ne va pas chercher à guérir à toute force, à être efficace, à être efficient, mais on va juste s'installer dans justement la possibilité même de mieux se connaître et de mieux être en relation avec sa maladie. Et pour le professionnel, être plus en relation avec, dans un mode d'accompagnement avec la personne qui est malade et qui souffre, eh bien, d'une certaine manière, on pourrait dire que là, on a comme une sorte de mise en relation de ces deux dimensions, le soin et la philosophie, qui sont toutes les deux pensées justement comme une manière de sortir d'une opposition un peu simple de départ. Sachant que prendre soin de soi donc pour soi-même, c'est aussi évidemment un peu un point de départ pour prendre soin des autres. Donc ce que j'évoquais comme étant les deux versants, le versant du patient, le versant du professionnel, du médecin, en réalité, ces deux versants, ils se rejoignent en réalité. Puisque en fait, le médecin lui-même, s'il est dans cette attitude de prendre soin de lui-même, c'est aussi comme une sorte de ressort pour prendre soin des autres. Donc c'est une attitude qui peut s'appliquer à lui-même et qui peut l'amener à se désobjectiviser dans ses pratiques pour se retrouver lui-même et du coup être plus en présence des autres et en l'occurrence des patients. Donc tout le monde y gagne d'un certain point de vue et ça nous permet vraiment de se donner du champ et pas de mettre de côté un certain nombre de modèles efficaces qui ont leur opérativité, mais les compléter, les enrichir et les faire fructifier davantage avec ce type de regard. Voilà les petites réflexions que je voulais vous soumettre et voilà, je serais ravie d'échanger avec vous. J'espère qu'on aura quand même un peu de temps parce qu'il est déjà un peu tard, mais j'espère ne pas avoir trop dépassé mon temps autorisé, un peu plus d'une demi-heure, c'est un peu plus long que prévu. Voilà, merci beaucoup, merci de votre attention. Alors, je ne sais pas, j'ai l'impression que Valérie est partie. Elle n'est plus là. Notre modératrice n'est plus là. Et donc, on va faire sans elle, je ne sais pas. Elle a dû avoir un souci, je pense. Elle n'a pas laissé de message. J'ai pas l'impression qu'elle m'ait laissé un message. Je regarde. Non. Oui. Ah oui, allez-y, oui. Bonjour. Oui, oui. Oui, tout à fait. Moi, je n'ai pas donné beaucoup d'exemples concrets, c'est vrai que. Mais j'avais en tête, en vous parlant, deux cas de figure, deux types de travaux ou de témoignages ou de façons de procéder de personnes que je connais, soit avec qui je travaille, soit que je connais personnellement. C'est d'une part tout le travail qui est mené depuis assez longtemps dans ce qu'on appelle l'éducation thérapeutique. Qui est un courant et une approche très concrète où on menait alors beaucoup en sciences de l'éducation, essentiellement, mais pas seulement, où finalement l'idée c'est vraiment de rendre les patients pas autonomes, mais disons de leur donner la possibilité de s'informer sur ce qu'ils vivent et de les mettre en relation dans des groupes de partage. Donc de créer de l'éducation par rapport à sa maladie. Et donc ça, je pense que ça participe de ce genre de prise de conscience et de conscience. De même dans les structures hospitalières, alors je connais plutôt la chose au niveau dans le cadre de la santé mentale, mais on a depuis alors assez longtemps aux États-Unis, mais plus récemment en France, des malades qui sont des pères aidants, donc qui sont eux-mêmes atteints d'un trouble, mais qui vont jouer un rôle de lien, de relation avec les autres malades et le personnel soignant. Donc ils sont intégrés finalement dans l'équipe pour apporter, pour accompagner, pour aider les autres de par leur propre expérience. Donc ça, c'est des exemples très concrets en fait de comment on peut faire bouger les lignes. Et puis un troisième exemple là, qui est un peu plus loin, mais qui aujourd'hui est devenu assez crucial avec la pandémie, c'est dans le secteur plus religieux, c'est le rôle des aumôniers, donc des prêtres qui se rendent dans les hôpitaux auprès des malades, mais pas seulement, aussi auprès des professionnels. C'est-à-dire qu'en réalité, ils jouent un rôle des deux côtés. Enfin, moi, j'ai vraiment eu beaucoup de témoignages de prêtres de toutes les confessions, en fait, qui ont été sollicités justement pour ce type de travail. Voilà ce que je pourrais partager enfin, sur cette implication et sur cette façon de voilà de comment dire de faire bouger les lignes tout en gardant le cadre dans lequel on est, qui de toute façon est notre cadre, enfin, mais pour lui donner plus de sens, je pense que il y a beaucoup d'initiatives en fait qui existent et de plus en plus, mais déjà anciennes hein, quand même comment dire, l'existence des pères aidants, c'est quelque chose de très, c'est pas nouveau, hein. Donc, non, t'as vu disparaître, mais tout à fait. Oui, non, je pense que ça, c'est vrai. C'est intéressant parce que c'est exactement le changement de cadre que proposent des auteurs comme Vaslavik, cette école de Palo Alto que j'évoquais comme étant un peu un repère pour moi d'un point de vue conceptuel et épistémologique. Parce que précisément, c'est le constat qu'ils font. Ils disent, en fait, tant qu'on est sur un certain plan, on ne voit pas l'autre plan. C'est-à-dire, en fait, le plan sur lequel on est le plan omni, c'est le seul plan, c'est le plan de la réalité. Et donc, on ne peut pas sortir de ce plan-là, en fait. Donc la seule façon, enfin, lui, ce à quoi il fait appel, c'est justement à des procédures psychologiques, en fait, d'exténuation du cadre. C'est-à-dire, il dit, à un moment donné, il y a un phénomène de saturation. Qui nous fait franchir un seuil, alors ça peut être individuel, ça peut être social ou politique d'ailleurs, et ce franchissement du seuil, il se fait malgré nous, hein, évidemment, c'est en général pas un déclenchement volontaire, et justement, c'est à ce moment-là qu'on va voir émerger autre chose. C'est un peu l'idée des théories de l'émergence, hein, qui nous situe sur un certain plan, puis à un moment donné, il y a un seuil qui est franchi. C'est aussi la vertu des crises, d'une autre façon. Hein, et la crise qu'on connaît aujourd'hui, peut-être justement, elle va susciter cet effet de seuil, de changement de cadre. Et c'est valable sur les plans aussi bien individuels que collectifs. On a des réflexions très intéressantes aussi d'une autre manière de Gilles Deleuze et de Félix Guattari dans l'Anti-Œdipe, dans ce texte des années 70, qui analyse très bien aussi ces effets de saturation. Et de franchissement de seuil. Et la dynamique qui se met en place et qui est totalement à l'insu des acteurs et à l'insu d'ailleurs des mécanismes explicites de gouvernementalité, sur le plan collectif. Et c'est vraiment intéressant d'avoir ça en tête parce qu'en réalité, je dirais aujourd'hui, on est en plein là-dedans, enfin, d'une autre façon, plus largement. Oui, tout à fait, tout à fait. Je pense que c'est, en tout cas, c'est un des modèles possibles. Enfin, après, je pense qu'il y a un modèle alternatif qui est le modèle de soit des États, soit des structures interétatiques, ce qui est plus notre modèle mondialisé aujourd'hui, qui peut avoir aussi un rôle à jouer dans l'affaire, hein, en tant que force de proposition et force de décision. Donc le mouvement immanent de génération, oui, mais à mon avis, il suffit pas s'il n'y a pas derrière une courroie de transmission qui est celle d'une décision politique de reprendre les choses en charge à ce niveau-là aussi. Enfin, il y a une sorte de besoin que les deux fonctionnent ensemble et qu'il y ait une sorte d'interaction. Enfin, voilà, ouais. qu'il y ait une reprise en charge, enfin, à un moment donné. Parce qu'autrement, ça se perd. Enfin, le risque, c'est qu'on n'en fasse rien, quoi. Enfin, ou que ça dégénère purement et simplement. Hein. Je sais pas, ça c'est une question pour Antoine. Ah oui, tout à fait. Ben moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer Jean-François Delfraissy en fait à l'automne, parce que j'avais été invitée à une table ronde où il a pris la parole aussi, qui était directement liée à la crise, enfin, et à ce qu'on avait vécu au printemps. Et justement, à un moment donné, je lui ai posé la question, je lui ai dit, mais quand même, le conseil scientifique que vous présidez, c'est impressionnant. Il y avait quand même essentiellement des médecins. Ok, il y avait une ou deux personnes de la société civile, mais il y avait, je crois, une sociologue. Mais en réalité, il n'y avait pas de philosophe. Hein. Comment ça se fait? Enfin, c'est quand même bizarre. Enfin, et en fait, bah, il n'avait pas vraiment de réponse, quoi. Enfin, je pense que c'est un conseil qui a été établi dans l'urgence et ils ont... Là, encore une fois, ils ont vraiment été dans l'efficacité sans se poser de questions sur le moyen terme ou le long terme, comme vous disiez, enfin, dans les temporalités voilà, dont on se rend compte maintenant de l'importance. Donc, je suis d'accord. Enfin, c'est vrai que. Ouais, alors moi je les connais pas hein, si ces personnes par ailleurs, donc je peux pas trop dire, mais j'ai l'impression que enfin, moi j'ai eu un diagnostic très critique au moment du printemps à propos de la relation entre ce comité scientifique qui s'était mis en place en mars en France et de la volonté politique de Macron en fait hein, qui a quand même été très voilà dans la très rapide enfin dans la mise en place de cette structure et en fait c'était quand même très occulte dans la manière dont ils interagissaient quoi enfin entre le politique le gouvernement et puis ce comité enfin on avait un peu l'impression que ils se renvoyaient un peu la balle enfin et que en fait il y avait une sorte de co-instrumentalisation quoi donc que c'était quand même assez problématique enfin dans la façon dont les politiques à la fois ne juraient que par les scientifiques enfin en tout cas chez nous en France. Et les scientifiques considéraient qu'en fait ils n'avaient pas la main. donc du coup, il y avait une sorte de déresponsabilisation mutuelle. Alors même que, justement, ce qui était mis en avant, c'était qu'on contrôlait tous bien la situation grâce à cette interaction. Donc, il y a quelque chose de paradoxal, enfin, dans la manière dont ça a été présenté. Et il y a quand même eu beaucoup de critiques, enfin, par rapport à ces dysfonctionnements. Enfin, donc, bon, c'est vrai qu'après l'analyse, on peut la poursuivre un peu différemment à l'automne et dans la situation qu'on vit aujourd'hui, Mais je ne sais pas si ce comité scientifique a fondamentalement changé à l'automne pour autant. Enfin, il y a eu quelques aménagements, mais pas grand-chose en fin de compte. Enfin, donc, Et je pense qu'on a des outils. Je pense qu'on même on a des outils. Je pense qu'on n'est pas complètement démunis. Mais simplement, c'est vrai que, enfin, je suis assez d'accord avec vous. Je pense que là, comment dire, c'est pas du tout. Comment dire, il faut pas jeter la pierre uniquement entre guillemets aux gouvernants. Enfin, je pense que en réalité, enfin, ça c'est un diagnostic très ancien qu'on trouve déjà chez au XVIe siècle chez Étienne de la Boétie quand il parle de la servitude volontaire. Les peuples même acceptent de se soumettre. Enfin, il y a un consentement, en réalité, tacite ou pas, mais il y a un consentement. Donc, d'une certaine manière, il y a quelque chose de très circulaire. Enfin, et je pense que ensuite, voilà, il faut un certain nombre de, faut éveiller son esprit et arriver à justement sortir de cette, de ce consentement et de ce conditionnement. Mais voilà, on manque pas d'outils pour ça aussi. Simplement, après, il faut leur donner suffisamment de visibilité pour que ça puisse imposer un autre cadre. Hein. Mais c'est vrai qu'on est tous embarqués dans le même bateau, hein, enfin, d'un certain point de vue. Donc, Merci. Je ne connais pas assez bien la situation que vous avez retracée rapidement là, concernant au Québec, donc je ne peux pas trop rebondir. En fait, je n'ai voilà, pas trop les données suffisantes pour voir comment ça peut se repenser de cette façon-là. Mais en tout cas, je vous remercie. J'irai regarder parce que, quel genre de mise en cause a été proposée. C'est ça, en fait, hein, c'est ça que vous évoquez, enfin, la mise en cause de ce système. D'accord. Très bien, merci beaucoup. Merci. Oui, je pense que c'est des. Si on y a accès, enfin, si c'est des auteurs qui sont parlants, je pense que c'est des supports intéressants pour approfondir. Et après, je pense que c'est on peut aller chercher des ressources à différents endroits et je trouve que si. Enfin, l'idée c'était de. Comment dire de. Pas du tout d'imposer quelque chose qui relèverait d'une approche philosophique. Enfin, sous le terme philosophie, c'était pas du tout ça que je voulais. C'était pas une sorte d'étiquette que je voulais poser sur. Pour saturer justement le problème ou pour. Mais c'était plutôt pour. Comment dire. Pour ouvrir une autre dimension. Et pour dire, voilà, on est quand même. On est quand même très coincé et très embrouillé enfin dans cette relation et distinction entre religion et spiritualité. C'est quand même un gros un gros embrouille à mini, je trouve, et d'autant plus aujourd'hui qu'en fait, beaucoup de gens cherchent un peu tous azimuts. Enfin, voilà, on parle beaucoup de marché spirituel, enfin, on va faire son shopping, enfin, dans les différentes ressources disponibles. Enfin, donc il y a quelque chose d'un peu étrange, quoi. Enfin, je trouve, c'est à la fois très ouvrant, très inventif, et en même temps, on se dit, mais on sent, enfin, de quoi parle-t-on, quoi. Enfin, c'est, moi, j'ai un sentiment de brouillage, en fait. Et peut-être c'est l'époque qui veut ça. Hein. Enfin, et je me dis, au fond, c'est pour ça que j'ai essayé de retrouver, finalement, un socle minimal. Enfin, c'est quoi l'endroit où on peut se débarrasser, finalement, de choses qui vont faire écran. Parce que voilà, vous dites à quelqu'un, ah oui, moi je suis orthodoxe, alors tout de suite, oh là là, qu'est-ce que c'est que ça, enfin, c'est un truc bizarre, enfin, donc ça fait écran, enfin, ça empêche de circuler, enfin, très souvent, et beaucoup de prises de position de ce genre vont générer des polémiques, des conflits, des oppositions, des incompréhensions, enfin, des malentendus, etc. Alors que si on arrive à se retrouver autour d'une relation partagée à soi-même et de façon d'être davantage en relation avec soi-même, finalement, ça, c'est universel. Enfin, tout le monde peut être d'accord là-dessus. Et après, chacun ira chercher là où il lui semble que c'est le plus utile et là où il se sent le plus à l'aise dans son environnement personnel, quotidien, ou dans sa formation, dans ses repères historiques, enfin, etc. Et je pense que c'est... Il y a quelque chose qui permet de recréer un lieu d'échange, un lieu de partage, et de sortir des écrans, de sortir des oppositions qui, finalement, toutes les religions et les spiritualités, c'est pas pour rien qu'elles ont été très souvent en conflit, et que, finalement, la politique s'en est mêlée, parce que, justement, enfin, il y a une dimension très... comment dire, on a son précaré, quoi, enfin, et c'est très difficile, en fait, de sortir de là. Enfin, et je pense qu'aujourd'hui, ben voilà, tout ce qu'on vit aujourd'hui en termes de montée de l'islam, enfin de retour d'un certain nombre de fondamentalismes, c'est lié à des affirmations où justement on essaye de, enfin, on génère finalement par soi-même aussi ce genre de comportement. Enfin. Voilà, il me semble que c'est très important de trouver un autre cadre, un autre moyen, en fait, de parler de ces choses-là, sans que ça devienne immédiatement un lieu de polémique, d'opposition ou de conflit. On le sait tous, enfin, je veux dire, on a tous des exemples dans nos familles de discussions qui dégénèrent dès l'instant où on évoque les questions religieuses, enfin, ou spirituelles. C'est des tabous, c'est des non-sujets, enfin. C'est quand même assez impressionnant. Donc c'était un peu l'idée, hein, de... Oui, tout à fait, tout à fait. Alors c'est sûr que là, il y a aussi beaucoup d'outils disponibles dans ce qui s'est élaboré depuis maintenant quand même presque une vingtaine d'années dans ce qu'on appelle les méthodes en première personne, les différents types de méthodologies en première personne, qu'il s'agisse de ce qu'on appelle les entretiens biographiques, donc qui engagent des récits de vie, donc des témoignages. Ou que ce soit des entretiens plus ciblés sur des moments précis autour de ce qu'on appelle l'entretien d'explicitation. Donc il y a beaucoup de méthodologies en première personne qui se sont développées depuis plus de 20 ans et qui justement cherchent qui se sont positionnées d'un point de vue épistémologique, c'est-à-dire qui ont vraiment cherché à définir un certain nombre de règles de fonctionnement, de cadrage. De façon de décrire ce qui est vécu, hein, et donc de ne pas laisser le vécu dans le domaine du privé, du subjectif, enfin, comme quelque chose qui serait pas du tout, qu'on pourrait pas du tout donc, valider, enfin, qu'on pourrait pas du tout justement objectiver. Et donc là, l'idée, c'est vraiment de conquérir une dimension scientifique, en fait, mais dans le sens intégrant du terme, enfin, et pas dans un sens limitatif. Ouais, tout à fait. Donc ça, je pense qu'il y a beaucoup d'outils sur ce terrain, et justement, toutes ces méthodes en première personne, elles cherchent de plus en plus à se développer de manière rigoureuse à y imposer justement un autre paradigme épistémologique que celui des sciences encore dominantes, du modèle dominant qui est très quantifiant et moyennant, et quitte éventuellement à se relier, à accompagner le dispositif quantitatif, c'est-à-dire pas forcément en étant dans une opposition, mais en cherchant justement à montrer comment on peut l'inclure et comment la scientificité doit être elle-même enrichie en fait de l'approche de l'expérience vécue et de la dimension personnelle. Enfin, donc avec justement une vision beaucoup plus intégrative en fait de ce qu'on appelle scientificité. Ça c'est quand même, ça c'est des voilà des choses qui se développent quand même depuis voilà 20-30 ans. Alors c'est pas le modèle dominant, mais ceci dit quand même ça gagne beaucoup en visibilité de plus en plus maintenant. Oui, bien sûr. Ouais. Oui, c'est vrai que c'est un courant qui est assez ancien aussi, mais qui a peut-être été un peu perdu de vue, en tout cas qu'on motive, comment dire, qu'on réinvestit pas beaucoup, mais qui a une véritable fécondité, je pense, c'est tout le courant de l'ethnométhodologie, ou de, enfin, tous les gens qui se sont formés à partir des travaux, par exemple, de Erving Goffman ou de Garfinkel, par exemple, où là on a vraiment une réflexion, comment dire, qui est une réflexion sociale qui est inscrite dans le tissu de micro-interactions entre les personnes. Donc situé à un niveau qui est très en proximité des personnes. Vous voyez, enfin, par exemple, ça c'est je pense, c'est comment dire, des approches qui ont été très importantes dans les années 60, 70, 80. Ensuite, c'est vrai que ça n'a pas été beaucoup réinvesti. Enfin, ça demanderait à être revisité. C'est. Ouais. C'est intéressant, c'est vrai que c'est. Je pense que. Enfin, moi, je me sens aussi très proche de ces approches-là, enfin, par ailleurs. Ouais.